Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Craponne pour ces invités du jeudi, puisqu'aujourd'hui, ils seront au nombre de trois. On va retrouver tout d'abord Corinne Renard, qui est illustratrice, et puis on retrouvera deux Pierre. Pierre Présumé, écrivain, qui parle de Stevenson, également de son papa, qui était un médecin très connu sur le plateau du Monastier. Et on retrouvera Pierre Jeinte, qui lui, ancien maire de l'Aussonne, et qui parle également de son expérience de maire. Voilà, ce sont nos trois invités du jeudi.
That knife has back heat there, and it keeps it.
Dès que j'ai jamais parlé dans ce truc, moi.
Voilà, donc on est à l'Intermarché du Monastier sur Gazeille. Aujourd'hui, il y avait une journée avec des auteurs qui sont autour de nous. Donc on a Corinne Renard qui va nous parler, c'est celle que je connais le moins, moi. Pierre Jeinte, qu'on ne présente plus, ancien maire de l'Aussonne. Et puis, bien sûr, Pierre Présumé, lui qui est sur son territoire, le fils du docteur Présumé, très connu. Alors, on va commencer avec Corinne, c'est normal, hein, la bienséance voulant que. Donc, Corinne, toi, tu es dans la bande dessinée et je crois que c'est ta première bande dessinée.
Oui, alors bande dessinée, enfin, plus illustration,
voilà, illustration,
si on peut donner une idée, un peu comme les petites Martines, sauf que c'est du local.
D'accord.
Et c'est une histoire vraie, celle de ma mère. Donc, c'était d'ailleurs pas évident de représenter sa mère jeune. Un bon travail d'imagination, voilà, parce que peu de photos. Et donc, la première histoire raconte ce qui lui est survenu. Le soir de Noël, en 1951. Et elle était fille de paysan, donc ça retrace aussi un peu toute la vie de cette époque.
Donc, toi, les illustrations, c'est toi qui les fais toi-même ?
Voilà, donc, entièrement.
Tu fais le texte et les illustrations ?
Tout à fait.
Parce que des fois, on a les personnes qui font le texte et on a des illustrateurs.
Voilà.
Toi, tu fais tout.
Voilà, tout à fait.
Et alors, il y a combien de temps que tu fais des illustrations ?
Alors, je dessine, je peins, j'ai un travail personnel depuis des années, mais vraiment me lancer comme ça, faire un livre, c'est tout récent, ça fait à peine 2 mois.
Alors, j'aurais pu commencer par là, c'est ta profession ou pas ?
Du tout. C'est un loisir.
D'accord, sinon, es dans quoi ?
Alors, dans l'immobilier, donc ça n'a rien à voir.
Ah oui, pas grand-chose, non, on est d'accord.
Rien du tout.
Et donc, cette première expérience, il y a combien de temps qu'elle est sortie, cette bande illustrée ?
Donc, ça fait un mois et demi, et c'est une expérience très enrichissante, parce que j'ai pu découvrir des gérants de magasins qui jouent du local, et avec qui on a des échanges, des libraires aussi. Et puis, j'ai trouvé ça très, très intéressant au niveau humain. Et puis, surtout, le retour des premiers lecteurs. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est lorsque j'ai des personnes qui me disent « Ah ben, en refermant le livre, mes petits-enfants, ils sont venus me poser des questions. » Comment c'était avant, et toi, est-ce que tu avais que des clémentines dans tes sabots, des choses comme ça. Donc, pour moi, ça me plaît énormément.
Oui, voilà. Donc ça interroge pour les jeunes, se remémorer ce qui s'est passé, leurs parents, leurs grands-parents.
Voilà.
Et oui, alors des retours, un mois et demi, c'est peut-être un peu juste, mais ils marchent bien, on va dire.
Ah ben écoute, oui, je suis assez contente, et puis bon, j'ai un petit compte Instagram. Donc, je l'ai mis sur mon livre et c'est comme ça que j'ai des retours.
D'accord.
Personnes qui m'écrivent via ce compte. Et ouais, c'est passionnant, quoi. Puis surtout, même quand je vais voir les gens, tout de suite, ils me disent « Ah ben, nous, nos parents, nos grands-parents, c'était comme ci, c'était comme ça, c'était... » Donc, il y a un véritable échange et j'apprends aussi beaucoup de choses pour les prochains livres. Donc j'ai beaucoup apprécié, là, j'ai discuté avec Monsieur Présumé, et je vais mettre un ou deux petits mots de patois pour mon prochain album.
Alors on ne va pas faire l'interview en patois, parce que là, j'y arriverai pas. Et oui, alors, donc illustration, où j'ai un peu regardé le livre, c'est vrai que c'est assez sympa. Et ça va continuer sur ce format ou...
Oui, je vais continuer ce format, donc c'est format A4. Donc j'essaye de faire des beaux albums avec une couverture rigide. Alors c'est pas précisé, mais c'est aussi imprimé vert. donc il y a un souci aussi écologique. Mmh. Et puis donc ça va être les anecdotes de la vie de ma mère. Donc le prochain, ça sera sur sa vie de bergère. Je vais prendre beaucoup d'informations au niveau de la botanique, les plantes qu'elle m'a parlé, et voilà.
Et alors, c'est à compte d'auteur, hein ?
Voilà, tout à fait.
Oui, parce qu'il n'y a pas d'éditeur, non. C'est à compte d'auteur.
Donc c'est pour ça que je peux voir en direct les gens, et ce qui était plutôt vécu au départ, peut-être comme un inconvénient, est devenu un avantage.
Et c'est la première fois que tu fais des dédicaces ?
Alors, c'est la deuxième fois.
La deuxième fois, d'accord. Ouais. Et la première fois dans un magasin
Non, c'était c'était le Salon du Livre à Sog.
À Sog, oui.
Et ce qui était très intéressant, c'est que j'ai eu beaucoup d'enfants.
Voilà.
Donc ça m'avait beaucoup plu. Alors par contre, j'avais amené mon chevalet. Donc ça aussi, peut-être je recommencerai, parce que le dessin intéresse beaucoup les enfants et pose plein de questions. Donc ça m'a plu. Là, c'est plutôt, par contre, la première fois où j'échange avec d'autres auteurs.
Donc c'est enrichissant.
Ah ouais, hein? Extrêmement enrichissant.
Bon, on reviendra peut-être. Avec peut-être Pierre Jeinte, qui a écrit beaucoup de bouquins, deux mandats, trois mandats, combien?
Alors, 25 ans d'activité d'élu,
oui.
Un mandat d'adjoint de 95 à 2001, et puis trois mandats de maire de 2001 à 2020. Au terme, je n'étais pas candidat à ma succession en 2020, du coup j'ai eu du temps de libre, et donc j'ai consacré une partie de mon temps de libre, ça que je l'ai tellement prévu à l'avance, je n'avais pas forcément prévu d'écrire à l'avance, mais bon voilà, l'occasion s'est faite, et puis j'avais du temps pour le faire, et je me rends compte que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire. Alors peut-être un peu facile pour moi aussi, pourquoi ? Parce que dans mon activité d'élu, et même au plan professionnel en amont, j'écrivais beaucoup, je prenais beaucoup de notes. C'est ce que j'avais fait d'ailleurs en tant que maire. J'avais un vrai carnet de route sur moi pendant que je travaillais, parce qu'à l'époque j'habitais Clermont, et je naviguais sur le sud-est de la France. Et ce carnet de route que j'avais dans mon cartable en permanence, il était très utile parce que dedans on y mettait des numéros de téléphone, des dates, des noms de personnes ou autres, d'entreprises ou autres, ce qui fait que je gagnais beaucoup de temps. J'allais très vite. J'avais besoin d'appeler quelqu'un, j'avais son numéro de téléphone très rapidement, et j'ai trouvé ce document extrêmement efficace. J'aurais peut-être d'ailleurs pas pu le faire, tout ce que j'ai pu faire, travailler à la fois étant maire et puis ayant une activité professionnelle, j'aurais pu ne pas y arriver. Ça s'est bien passé. Et du coup, quand j'ai arrêté mon activité de maire, l'idée est venue presque automatiquement, finalement, de prolonger, parce que c'est une prolongation finalement, mais enfin il y avait un objectif aussi. La première idée, c'est que je voulais marquer noir sur blanc, c'est une histoire. Je voulais raconter l'histoire de 25 ans de vie de mère, de moments de vie de mère, et en même temps, je raconte aussi tout le travail qu'on a pu faire pendant 25 ans. Donc ça, je voulais le mettre noir sur blanc. Et de fil en aiguille, même si j'avais pas de propension particulière, contrairement à Pierre, en français ou en littérature, je me suis mis à écrire, je me suis rendu compte que finalement c'était pas si difficile que ça de le faire, et comme j'avais de la matière puisque j'avais noté beaucoup de choses, et j'avais pour habitude à la mairie, même ailleurs, de tout noter. Je prends l'exemple des conseils municipaux. Avant de tenir un conseil municipal, je rédigeais un pré-compte-rendu, autrement dit je rédigeais les notes sur lesquels, ou des sujets sur lesquels on allait travailler. Ce qui fait que les élus avaient de la matière, et pendant les réunions, c'était facile pour eux, parce qu'ils avaient tous les chiffres, tous les sujets. J'écrivais donc beaucoup, et les réunions qu'on faisait étaient accompagnées systématiquement d'un compte-rendu, parce que j'aimais bien quand même la preuve. Autrement dit, quand on fait quelque chose, on le prouve noir sur blanc, ce qui fait que j'écrivais. Et donc, toute cette matière que j'avais, je l'ai finalement posée sur un livre. Deux livres, il y a deux tomes, tome 1 et tome 2. Sans vouloir rentrer dans le détail du contenu, il y avait quand même beaucoup de choses. J'ai dû faire deux tomes, ça rentrait pas dans un, il faut dire les choses. Hein.
Et c'est la première fois que tu écrivais un livre.
Oui, voilà. Donc, ouais. Écrire de manière formelle, c'est la première fois, même si j'avais eu, ça et là, l'occasion de rédiger tel ou tel article. La responsabilité d'écrire, je la prenais en fait. Je prenais cette responsabilité. C'est la première fois que j'ai rédigé ce fameux carnet de route d'un maire rural. Voilà, 25 ans d'histoire.
Alors je crois que c'est là-dessus qu'il faut insister, parce que je sais, pour avoir lu des comptes rendus, un peu suivre quand même, que tu as été président des maires de la Haute-Loire, c'est ça? Oui. Hein? Et donc, toi, tu as beaucoup défendu la ruralité.
Oui, effectivement. Alors, c'est... Je suis originaire du monde rural. Je connaissais le monde rural. J'ai connu aussi la ville en étant au plan professionnel ou dans ce parcours. Mais en tant que maire, je me suis rendu compte très vite que, je le mets entre guillemets, la ruralité était un peu en danger. Et je m'en suis rendu compte d'autant plus que les lois que nous proposait la République, la loi NOTRe, j'insiste sur le mot NOTRe parce que tous les maires qui nous écoutent, ils vont s'en rappeler, n'étaient pas favorables, et d'autres avant, n'étaient pas favorables. Donc effectivement, même si la NOTRe date de 2015, autant pour moi, depuis 1971, il est question sur le territoire national de supprimer la commune. Je le mets entre guillemets. Oui, parce qu'il fallait suivre le modèle allemand. Nos amis allemands avaient fait ça chez eux il y a une cinquantaine d'années aussi. Ils avaient concentré des communes pour en faire. Sauf que la densité de la population allemande n'est pas la même que chez nous. Et donc, en Allemagne, on a fait des regroupements de communes sur des périmètres restreints. Donc, il y a de la cohérence. Chez nous, ce n'était pas le cas. Et donc, du coup, en 2012, j'ai effectivement décidé en Haute-Loire de créer l'association des maires ruraux de la Haute-Loire, parce qu'elle n'existait pas. Il y en avait au plan national, puisqu'on avait à peu près à l'époque 70 départements qui étaient représentés chez les maires ruraux. Aujourd'hui, on est plus de 80 d'ailleurs, donc le phénomène s'est développé. Et donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer des maires d'autres départements. Et c'est là que ça fait plaisir, parce qu'on se rend compte que les problématiques qu'on a en Haute-Loire, on les retrouve ailleurs, dans les Hautes-Alpes, ou dans l'Allier, ou en Bretagne, ou ailleurs. Et donc, j'ai retrouvé des maires, et j'ai gardé encore aujourd'hui des contacts avec des maires d'autres départements qui finalement avaient les mêmes problématiques que chez nous. Et ça nous renforce aussi dans l'idée de défendre cette ruralité qui mérite effectivement d'être défendue.
Alors oui, tu as parlé des deux tomes et du troisième livre, je ne me rappelle plus, le parcours politique, c'est ça?
Oui, cheminement politique.
Cheminement politique, j'étais presque. Donc oui, là, c'est plus engagé?
Oui, non, alors, si tu veux, le carnet de route d'un maire rural, c'est la réalité. C'est l'histoire de 25 ans d'activité dans une mairie. Et donc c'est extrêmement concret. C'est des faits précis, des faits qui se sont déroulés sur le terrain. Bon. Donc, j'ai voulu sortir un peu de cette boîte un peu restreinte, fermée en tout cas, et en me disant quand même, au lieu de parler de toi-même, tu vas en faire parler d'autres. Et donc, l'intérêt du roman, c'est que tu crées tes personnages. Et ton personnage, tu le fais parler à ta guise. Donc, je me suis permis, effectivement, je crée les personnages que je voulais, je les ai fait causer, sauf que c'est pas toi qui cause, c'est ton personnage,
oui.
Mais ton personnage, lui... Il dit ce que tu penses aussi. Et donc, effectivement, il raconte, et c'est un roman, donc une fiction, qui raconte effectivement une histoire qui pourrait se produire. Quand j'explique qu'une jeune médecin, parce que c'est vrai, je me rappelle très bien du docteur Henri Présumé, le père de Pierre, et j'ai toujours gardé cette problématique, surtout qu'aujourd'hui, le fameux désert médical dont on parle, nous, dans les territoires ruraux, on manque de médecins, je suis très câblé là-dessus. Du coup, mon personnage principal, c'est une jeune dame, comme quoi je mets aussi les dames en avant, quand même, et une jeune dame médecin, donc, qui elle terminait ses études de médecine. Puis, le maire d'un village... déjà prospecté dans les universités de Saint-Étienne, de Lyon par là, même de Clermont-Ferrand. Et puis cette jeune médecin s'est dit, tiens, pourquoi je ne viendrai pas dans un village rural? Elle est venue, et puis finalement elle s'est très bien installée sur place, elle s'est parfaitement intégrée dans la population, et du coup elle a découvert cette vie rurale, et puis aussi son engagement pour la société, pour la collectivité, qui fait qu'effectivement elle est rentrée dans le jeu de la politique, elle s'est fait élire, elle a beaucoup progressé dans l'histoire, même que on aura peut-être, sans imaginer l'avenir, avoir une présidente de la République en 2027. Qui sait? La question, elle est posée, hein?
Complètement. Donc voilà, vous avez vu, enfin vous avez entendu surtout Pierre Gente. Et puis c'est un autre Pierre, parce qu'on est entouré de Pierre aujourd'hui. Hein. Pierre Présumé, alors Pierre Présumé on le connaît puisqu'on a fait des émissions avec lui. Pas besoin de présenter les présumés sur le plateau, là, parce que, comme disait l'autre Pierre, c'est vrai que le papa était un médecin dont on parle encore. Et Pierre, lui, est prof de français. Donc, je pense que pour toi, ça a été plus facile d'écrire.
Oui, enfin, je sais pas si facile que ça d'écrire. En tout cas, c'est tentant. Beaucoup de gens ont envie d'écrire. Ça je le remarque. Parce que l'écriture, quand même, elle garde sa vertu première, c'est de rester, c'est de demeurer, c'est d'affronter cette question qui tracasse tellement les hommes, qui est du passage du temps. Alors que l'écriture, elle demeure. Hein. Et je pense que c'est pour ça qu'on écrit d'abord, quand même. Très certainement, c'est une des raisons majeures. L'écriture permet, je crois que c'est vrai pour Pierre Gente, il vient de nous l'avouer pratiquement à l'instant, on a un parcours de vie et puis on passe par des expériences, ou bien alors c'en est d'autres aussi, la maman, le papa, etc. Et ça, on a besoin que ça reste, que quelque chose demeure. Sans doute on a aussi le sentiment qu'on a aujourd'hui, on vit dans une société où les choses passent très très vite et où on est un peu dévoré par une machine temporelle qui va toujours de l'avant, toujours vers le futur à toute allure, et on regarde peut-être pas assez souvent dans le rétroviseur, ou alors quand on regarde dans le rétroviseur, c'est avec le sentiment que les choses sont très loin derrière, et on se dit, bon sang, rien n'est resté, et tous ces gens, toutes ces générations qui ont vécu, ça c'est très sensible dans la montagne et dans la campagne, tous ces gens qui ont vécu dans la montagne et dans la campagne, au fond, si on ne parle pas d'eux, eh bien, rien ne restera d'eux. Et ça, c'est même un peu terrifiant, c'est très triste. Et je crois que si on écrit, entre autres, enfin pour moi, mais pour beaucoup d'autres gens que j'observe, c'est souvent à cause de ça, c'est pour essayer de retenir quelque chose de vie qui aurait passé sans rien laisser derrière.
Oui, alors toi, bien sûr, ton livre sur ton papa, hein, je veux dire... C'était un phénomène, c'est quand même une icône, hein, je parle. Hein, de...
Oui,
ouais, on peut le dire, on peut
pas
le dire
exagérer
carrément.
Non plus,
oh, je crois que j'exagère pas bien.
Ben, c'est vrai que le livre que j'ai écrit sur mon père, il s'est étonnamment vendu. Oui. On s'attendait absolument pas à ça avec mon éditeur, Luc Olivier. Mais c'est vrai que, oui, c'est une très bonne surprise. Même souvent on me dit mais il faudrait faire un tome 2, un tome 3. Ouais. C'est vrai qu'il y aurait la matière de le faire. En même temps, moi je voulais aussi maintenir mon point de vue de fils de.
Voilà. Hein.
C'est-à-dire que mon père a été mon père, bon,
oui.
Mais il a été aussi mon médecin, il m'a soigné. Mais par ailleurs, il a été le médecin de toutes. Je crois que j'avais essayé de compter les communes dans lesquelles il avait.
Oui.
Je crois que je suis arrivé à plus de 50 communes.
Oui, quand même.
Donc, il a soigné énormément de gens, et pendant une très longue période. C'est important, parce que il est resté là. Il a soigné dans les familles plusieurs générations successives. Mmh. Quand nous avons présenté ce livre à Sainte-Eulalie, où mon père a débuté, il y avait dans la salle d'abord énormément de gens. Il y avait plus de 120 personnes à Sainte-Eulalie ce jour-là. Et on a vu arriver... quelquefois le grand-père, le père et le fils. Et mon père avait soigné tout le monde. Quelquefois mis au monde le fils. Voilà. Donc ça, c'est effectivement, c'est quelque chose qui marque, hein, incontestablement. Alors, ça a marqué les gens qui ont été soignés par lui. Lui aussi, ça l'a beaucoup marqué. Mais nous aussi, ça nous a marqué. En même temps, mon père, c'était quand même un père. À sa manière. Et les rapports avec lui n'étaient pas simples. Hein, loin de là, hein. Mais n'empêche que moi j'ai connu mon père autrement que
Docteur.
Les malades qui ont été ses malades. Je l'ai connu alors que j'étais tout petit, et ça aussi ça nous a énormément marqué, ma sœur et mes frères. Et chaque fois que nous parlons de notre père, ben c'est notre père. Voilà.
Alors après, bon, il y a eu, puisqu'on reste toujours sur le monastier, hein, Stevenson. Alors Stevenson, maintenant, plus besoin de le présenter, hein, c'est une époque qui était moins connue, mais là, en étant venu au monastier, sur le Loire, on connaît Stevenson, il y a le chemin de Saint-Jacques, mais il y a maintenant le chemin de Stevenson, et je sais qu'on a fait une émission ensemble, il y a beaucoup à dire.
Hein. Ah oui, alors, bon, ben, c'est... Ça reste énigmatique, cette histoire. Pourquoi ce bonhomme est venu chez nous? Bon, alors il y a des tas de raisons, je ne vais pas les évoquer là, ça serait trop long. Mais ces questions-là, tout le monde se les pose. Hein. On oublie trop souvent que quand il est venu au monastier, il n'était pas un écrivain connu. Il est un écrivain qui se cherche. Hein. Il sera connu 4 ans plus tard grâce à l'île au trésor. 1878, Stevenson n'est pas du tout un écrivain de renommée mondiale. Et brusquement, il va avoir une renommée mondiale. Alors l'erreur qu'on commet souvent, nous, aujourd'hui, c'est d'oublier ça. On se dit, ah, c'était un type très connu qui est venu au monastier. Mais pas du tout.
C'est l'inverse.
C'est pas un type très connu qui est venu au monastier. Pas du tout. C'est un apprenti écrivain qui vient.
Et ça l'a inspiré, l'île au trésor, de venir au monastier, c'est ce qui l'a inspiré?
Ah non, je ne pense pas. Mais on sent des choses. Par exemple, quand il vient au monastier, il a dans ses bagages des pistolets. C'est assez curieux. Hein, craignait pas grand-chose, je crois. Enfin, bon, la région avait la réputation d'être un peu dangereuse. On disait qu'il y avait des loups, par exemple. Bon, des brigands, peut-être. Enfin, il a des pistolets. On sent qu'il y a un goût des armes chez Stevenson. Évidemment, dans l'île au trésor, on va s'en servir des pistolets. Ça aura beaucoup d'importance. L'autre chose qui m'a surpris aussi, c'est que dans son voyage, il parle pas très bien du monastier. Ce qu'il dit des gens du monastier est pas très agréable à entendre. Il y en a 4 pages. Alors qu'il est resté un mois. Il est resté un mois et que le voyage n'a duré que 12 jours. Ça m'a intrigué. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant ce mois? Il a acheté une ânesse. Enfin, il ne faut pas un mois, je dis très souvent ça, il ne faut pas un mois pour acheter une ânesse. À l'envers, moi, j'ai repris la question, je me suis dit, mais s'il est resté un mois, c'est qu'il était bien. C'est qu'il s'est trouvé très bien, là. Donc j'ai voulu justifier cet amour du pays que je lui ai prêté. Je n'ai pas de preuve absolue de ça, mais je l'ai justifié en mettant autour de lui des personnages sympathiques. Plusieurs me l'ont dit, tous les personnages du monastier, tous les mange-chèvres du monastier que j'ai mis autour de mon Stevenson sont tous sympathiques, en particulier la petite servante de l'auberge où je l'ai fait descendre, que j'ai appelée Foncine, qui est une jeune fille tout à fait charmante, attachante, dégourdie. Bon, j'ai pas imaginé d'histoire d'amour entre lui et cette jeune fille, parce qu'elle aurait été vraiment contraire à l'histoire, parce qu'on sait très très bien que quand Stevenson est au monastier, dans son cœur, c'est une autre femme qui existe et qui va motiver une grande partie de sa vie. C'est Fanny Osborne, son américaine. Il était tombé amoureux d'une américaine qui était mariée et qui, à ce moment-là, en 1878, était retournée aux États-Unis, en Californie, pour divorcer, pour pouvoir ensuite se marier avec Stevenson. Ce qui s'est effectivement passé, mais ça n'a pas été simple. Ça a été toute une histoire. Et Stevenson a dû, après le monastier, retourner à Londres, traverser l'Atlantique, sans un sou d'ailleurs, parce que le papa Stevenson avait coupé les vivres complètement, et traverser l'Atlantique, traverser ensuite les États-Unis en train, et quand il est arrivé en Californie, il était très malade, il était déjà malade au monastier, il a toujours été malade. Il était malade des poumons. Et donc, sans cette femme, sans Fanny, il n'aurait pas survécu, probablement, et peut-être même pas écrit L'île au trésor. Le voyage du monastier, c'est une sorte de préambule, en quelque sorte, à toute une œuvre extraordinaire de découverte. C'est un personnage extrêmement sympathique, Stevenson. C'est un type curieux, qui s'intéresse à tous les pays, à tous les gens qui vivent dans les pays qu'il traverse, à la langue des gens, la langue parlée par les gens. C'est pour cette raison aussi que dans mon roman, j'ai fait parler le plus possible les personnages du Monacier avec la langue que très probablement ils parlaient, c'est-à-dire ce qu'on appelle le patois, c'est-à-dire en fait le dialecte de langue occitane qui était parlé à ce moment-là au Monastier. Voilà.
Bon, alors, ceux qui n'ont pas encore lu le livre de Stevenson, vous le ferez pour découvrir complètement son histoire. Alors, ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on a trois auteurs, et en fait, on se rend compte qu'on peut écrire des choses très différentes. Corinne, elle fait de l'illustration. Pierre, lui, il a parlé de son parcours politique, on peut le dire, hein, c'est un peu de la politique quand même d'être maire. Et puis, alors l'autre Pierre présumé, enfin, je précise, donc lui qui est parti plutôt sur vraiment du roman, bon, l'histoire de son papa, l'histoire de Stevenson qui a marqué quand même, et qui marque de plus en plus la région, hein, parce qu'on parle beaucoup de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais maintenant on commence à parler du chemin de Stevenson.
Hein. Ah oui, on en parle beaucoup.
Ça fait venir beaucoup de monde. Hein.
Moi-même, enfant, adolescent, nous avons été un petit groupe d'éclaireurs de France, on a été les premiers à baliser le chemin, qui aujourd'hui est presque une autoroute.
Corinne, tu disais que de se rencontrer comme ça, c'est très enrichissant.
Oui.
Oui.
Ah oui, tout à fait, parce que moi je suis à la recherche un peu des racines de la vie paysanne dans les années 50. Donc là, en plus, j'ai des auteurs qui s'intéressent à la ruralité, qui ont une richesse incroyable au niveau culturel de toute cette période, du parler aussi. Et puis, donc j'apprends plein de choses que je vais pouvoir utiliser dans mes prochains albums.
Dans tes prochains albums, il y en a un qui est en gestation ou pas là ?
Oui, alors donc là, je suis en train de faire Gabrielle Petite-Bergère. Donc c'est ma mère quand elle gardait ses moutons, et ça paraît trivial comme ça, mais il y a plein de choses intéressantes sur la vie d'autrefois. Tout simplement, par exemple, aujourd'hui on dort sur des matelas confortables, ma mère dormait sur des feuilles de frêne, après elle a eu des matelas en laine, avec la laine des moutons, mais c'est pas quelque chose qui s'est fait, et ça paraît inconcevable pour les enfants d'aujourd'hui. Et je trouve que de représenter ma mère petite, donc de la dessiner petite, il s'identifie plus facilement donc à la vie de leurs grands-parents, parce que je les représente enfant.
Donc ça va continuer toujours avec en toile de fond ta mère.
Oui, parce qu'elle a pas mal de choses à raconter.
D'accord.
donc voilà.
D'accord.
Et puis il y a aussi, alors je lance un appel, j'en profite, parce que j'ai aussi un projet lorsqu'elle a été à la foire de la Toussaint, au Puy-en-Velay. Et si quelqu'un a des vieilles photographies de la foire, je suis preneuse. Si on veut me les envoyer, ça sera avec plaisir.
Ouais.
Et je note aussi l'idée de regarder les vieux journaux que vous m'avez suggérés.
D'accord. Oui, donc on va revenir sur cette période qui n'est pas très ancienne en fait. Hein, mais
les années 50.
On en parlait ensemble. C'est vrai que ça a été très très vite. Hein, là, on est dans une... Comme disait Pierre, ça va trop vite même parce que il faut.
Mais c'est assez frappant. On est très différents là, tous les trois autour de la table, hein, c'est évident. Mais en même temps, on sent tous plus ou moins confusément que on a été témoins directement ou indirectement, si c'est par exemple la maman.
Ouais. Bon,
mais on a été témoins. Je vais peut-être dire un mot trop fort, mais de la fin d'un monde. Une très très longue vieille civilisation rurale, hein, et on a assisté à la disparition de cette, où on est au tout dernier moment de cette civilisation, si vous voulez. Et donc ça, ça nous donne le sentiment de quelque chose qui se perd. Ça accentue aussi notre sentiment de la responsabilité.
Oui.
On se dit, je suis témoin de ça. Est-ce que je vais laisser passer les choses, Ça ne veut pas dire du tout non plus qu'on croit que le passé était plus beau que le présent. Parce que c'est très facile de reprocher ça à tous ceux qui se tournent vers le passé. On dit, ah, mais oui, mais aujourd'hui, c'était quand même bien, c'est bien mieux. Bien sûr, on ne va pas demander de retourner à une civilisation où les jeunes femmes mouraient en couche, hein, voyez, où on n'avait pas tout le confort ou la médecine qu'on a aujourd'hui. Bien sûr, ce n'est pas ça qu'on demande. Mais n'empêche qu'on voit bien que cette civilisation qui tenait debout, qui a duré, qui a affronté des malheurs aussi.
De guerre.
Oui, par exemple. Hein, de guerre, de grandes, grandes guerres. Ouais. Et malgré tout, cette civilisation, elle a survécu. Et aujourd'hui, pour d'autres raisons, pour des raisons techniques, où la technique a pris le pas sur tous les aspects de la vie, eh bien, elle est menacée. Mais même, je crois qu'elle est finie. Hein.
Il y a un livre là qui arrive encore, Pierre.
Oui, moi je suis en train d'écrire un livre sur les champignons.
Oh là. Ah ben on est dans le pays du chef des champignons.
C'est pas du tout un guide, hein, parce que des guides de champignons, il y en a d'excellents, et moi je serais incapable. Mais en tant que cueilleur de champignons, je pense que il y a une expérience là aussi particulière, avec la forêt, avec les prés.
La nature.
La nature, bien sûr.
Ouais, tout simplement. Et l'autre Pierre, Pierre Jeinte.
Je voudrais juste rebondir sur ce que disait Pierre tout de suite sur les cycles. C'est vrai qu'il y a des cycles, on connaît des cycles dans l'économie, il y a certainement des cycles aussi dans la vie sociale. Pour autant, nous les maires, et puis pas que, on est très attachés à l'histoire locale, au patrimoine, à la culture, à la connaissance. Et c'est vrai qu'il y a une richesse extraordinaire qu'on peut aller rechercher dans la vie de nos anciens, finalement, dans ce qu'ils construisaient, dans la manière dont ils vivaient. Ça va nous inspirer. Sans doute, peut-être aussi pour prévoir l'avenir, ou préparer l'avenir. Et donc, nous les maires, c'est ce que j'ai voulu aussi essayer de dire à mes collègues élus et d'autres, hein, qu'il faut, il faut défendre ça. Il faut considérer que c'est un patrimoine qu'on a acquis de nos parents et de nos anciens, de nos grands-parents, et qu'on doit nous transmettre aux autres. Et faire le lien entre le passé et l'avenir, c'est très important pour nous, parce que, encore une fois, on fait souvent référence à ce patrimoine. Je pense aux assemblées, je pense aux abreuvoirs, aux bachats, aux fours à pain, parce qu'ils démontraient la vie, comment vivaient les gens à l'époque. Hein, on allait faire cuire le pain au four, les animaux allaient boire dans le bachat, etc. La fontaine, etc. Donc, c'était une époque, certes, et notre rôle à nous, c'est aussi de valoriser. C'est vrai qu'on a souffert, sans doute, Pierre y faisait allusion, on a souffert au fait qu'on traitait de passéiste cette époque. C'est le passé, certes, mais c'est pas forcément un passé. Faut pas le regarder avec un regard péjoratif, il faut le positiver. Et donc, on a essayé de toujours, c'est ce que j'ai cherché à faire, en fait, pendant mon temps d'élu, dans les conversations, défendre ce patrimoine, cette histoire, la valoriser, la mettre en avant, en parler aux enfants, c'est ce que tu disais aussi, hein, effectivement. Donc voilà, il faut travailler là-dessus, il faut continuer, c'est aussi un enseignement qu'on peut donner à nos enfants. Alors Jean-Pierre, pour répondre à ta question, pour être plus précis, c'est que quand on a commencé à mettre le pied sur le pédalier, on veut essayer...
Pied à l'étrier.
À l'étrier, on le dit à l'étrier, je crois. On veut continuer à avancer. Alors, je ne voulais pas rester cantonné. Voilà. Donc, comme finalement, j'ai envie de continuer à écrire, parce qu'on y prend goût au bout du compte, même si ce n'était pas du tout ma culture au départ, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Donc oui, je suis en train de... Alors il y a eu ce roman dont j'ai parlé tout à l'heure, et je vais continuer aussi, mais je voulais sortir de cette logique politique, on va dire, politique, économique, démocratique, etc. Et donc le prochain bouquin qui est presque terminé de rédiger, j'ai presque terminé de rédiger, je suis en train de le relire, ça sera en polar, il faut bien changer un peu, hein, ma foi, il n'y a pas d'interdit, hein, donc... On va aller vers un polar. Alors l'histoire se passe en fait dans le coin. J'en dis pas plus pour l'instant, mais je me suis arrangé aussi pour qu'elle se passe. Et comme je le disais aussi quelque temps ou tout à l'heure, je m'arrange toujours dans ce que j'écris à pointer tel ou tel site tel ou tel lieu, pour que finalement le lecteur, soit il va rechercher ce que l'auteur a voulu dire, mais en tout cas, ça m'amuse aussi de rédiger, de décrire un site à ma manière, bon, voilà, pour que on donne des points de repère finalement au lecteur. Bon, donc ça va être fait, mais c'est vrai que quand on a commencé à imaginer, on continue d'imaginer. Donc je suis en train de, il y aura sans doute une suite après entre plutôt le roman, parce que c'est vrai que ça ouvre des portes à l'écriture, mais voilà, donc il y a du chemin à faire. Les idées, je crois que ne manquent pas. Pour l'instant, je ne me suis pas forcément calé sur une idée, mais je vois que les idées sont là. On va pouvoir trouver de la matière à faire.
Alors bon, cet entretien aujourd'hui se déroule à l'Intermarché du Monastier. On est avec Mélanie et David. Alors, je ne sais pas qui c'est qui répond, Mélanie ou David. David, qui est un peu arroué aussi, mais moi aussi, hein, rassure-toi. Je disais, c'est la première fois que tu fais venir comme ça des auteurs en dédicace?
Non, c'est pas la première fois, on a fait quelques dédicaces, mais c'était un auteur après l'autre. Et là, en discutant, on s'est rencontré avec Pierre, et puis de fil en aiguille, j'ai proposé à Pierre Présupé de nous rejoindre. Corinne a fait la démarche pour vendre sa bande dessinée, et de fil en aiguille, voilà, on s'est dit, mais pourquoi pas se réunir tous les trois, et toi également, pour faire une matinée dédicace. Et cette matinée, ça a été, de mon point de vue, très enrichissant, parce que j'ai rencontré mes clients, vos lecteurs, et qui étaient émus. Donc ça m'a surpris, c'était très très agréable. On a ressenti le côté humain, et c'était vraiment chouette. J'ai passé un agréable moment en votre compagnie, et vos lecteurs également, je pense.
Une idée à poursuivre?
Je pense. Donc, peut-être les prochains ouvrages, ça serait avec grand plaisir.
Nous, on a eu beaucoup de plaisir, je le dis à David, beaucoup de plaisir à partager ce moment, non seulement avec nos lecteurs, qu'on a trouvé nombreux, parce que moi, je me suis rendu compte ce matin, je connaissais beaucoup de monde, c'est un peu naturel aussi, mais Pierre aussi.
Vous êtes plus connu que moi. Mais,
donc, ça fait plaisir. En tout cas, l'ambiance y est. Jean-Pierre aussi, oui. Avec toi. Une belle ambiance. Donc, bien sûr, il faut renouveler ça, en tout cas pour moi et. C'était un grand plaisir.
Ah, moi aussi.
C'est alors, moi je dis plaisir. Toujours, hein, c'est vrai, moi je m'en suis rendu compte, on va fêter nos 40 ans de radio. J'ai toujours dit, la vie est faite de rencontres. Hein. Ça, c'est indéniable et on fait des belles rencontres.
Tout
hein.
à fait.
Hein, c'est vrai. Oui. Et voilà, et j'ai un slogan que j'ai jamais mis à la radio, mais que je dis à tout le monde, écoutez Radio Craponne, un jour ou l'autre, on parlera de vous. Eh ben oui. Alors pour terminer, j'aimerais bien, parce qu'on a parlé un peu de patois, hein, je vous dis un peu ce qu'on a fait là, entre nous on a parlé de patois, alors je voudrais demander à Pierre Présumé, parce que, donc Présumé innocent, hein, on a dû déjà te la faire, mais de nous terminer cette émission en disant en patois quelques mots, au revoir, enfin ce que tu veux.
Eh bien, rien bien par là. Tout le jour, le matin, paye à mi-jour, paye après mi-jour, et bien le paye de l'Auxonne, et la Corinne de Coubou, car bien agradant, parce que il n'y a pas sous la main que le monde d'ailleurs. Il y a mai le monde d'hier, le monde passé. Et le monde passé, quand le monde. Le monde de. Comme dire. Le monde passé, quand le monde.
D'avant.
D'avant est toujours année. Toujours année. D'un biais ou d'un autre, d'avant est toujours d'année.
Ben, merci.
Et paye pas mal.
Merci à tous. Avait passé un bon moment. Ouais.
Merci à tous les trois. Puis, comme on dit un peu en patois, mieux vivre. C'est comme ça qu'on dit.
À réveiller.
À réveiller.
À doucha.
Adioucha. Ben, merci à, enfin, à tous les trois, plus à Mélanie et David, bien sûr, qui, on sait, sont très actifs, hein, sur le monastier. Et puis bon, alors cette émission a été enregistrée dans le cadre de l'invité du jeudi. Donc là, on en aura trois dans ces invités du jeudi. Donc je vous invite, bien sûr, à découvrir leur livre. Hein. Il y a des romans, il y a un peu... On peut dire, pour Pierre, c'est une autobiographie, un peu, hein, Pierre. Un peu.
Oui.
Un petit peu.
Je sers d'exemple.
Tu sers d'exemple, voilà. Et puis Corinne, qui est, elle, complètement différente, puisque elle fait des illustrations. Enfants. C'est des livres pour enfants, oui. Et elle nous parle de sa maman.
Et pour les grands aussi.
Et pour les grands aussi, oui. On a l'impression qu'elle avait beaucoup de liens avec sa maman.
Tout voilà. À fait.
Ben, merci à tous. Merci à Mélanie et à David de nous avoir reçus. Et puis peut-être une autre fois pour une autre expérience.
Volontiers.
Merci.
Merci.
Au revoir.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
When the shark bites. Cette émission, je vous le rappelle, est rediffusée le lundi à 22h, le mardi à 19h et le mercredi à 12h30.
Fancy gloves though, where's my heat dear? So there's not